Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Une partie de l'équipe est revenue de Cannes. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'équipe qui n'était pas à Cannes, mais vous avez donc quand même vu des films. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question de Cannes. On va fermer finalement la parenthèse cannoise de cette 76e édition du festival. Mais donc, on va aussi parler notamment d'un film qui vient de Cannes, Manu.
Donc, on va parler d'Omar la Fraise, hein, et puis je vais vous dire un mot aussi du nouveau film d'Ulrich Seidel, Sparta.
Et puis toi, Guillaume, c'était un film qui n'était pas du tout sur la croisette.
Non, mais quand même un petit peu attendu, parce que c'est quand même la réinterprétation d'un personnage si ancré dans la culture populaire que son premier interprète du cinéma parlant a quand même donné le nom d'une chanson de Alice Cooper. C'est Renfield.
Et Marine, elle parlera du dernier film de Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, mais nous commençons donc par fermer la page cannoise.
This is Cinérama.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
C'est une habitude, hein. On vous résume avec son seul, le palmarès du festival de Cannes. Le voici, on en parle juste après.
Il est temps maintenant d'accueillir le jury de la sélection officielle et de découvrir le palmarès. L'écrivain et réalisateur franco-afghan Atik Raimi. La réalisatrice et scénariste marocaine Mariam Touzani. Le réalisateur et scénariste argentin Damian Zifron. La réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau. L'acteur, scénariste et réalisateur américain Paul Dano. L'actrice, réalisatrice et productrice américaine Brie Larson. L'acteur français Denis Ménochet. La scénariste et réalisatrice britannico-zambienne Ungano Nyoni. Et le président du jury, le réalisateur suédois Ruben Östlund. Le prix d'interprétation masculine
est attribué à Koji Yakusho.
Je remercie aussi toutes les personnes qui ont vu le film Perfect Blue, Perfect Day, pardon.
Le prix d'interprétation féminine.
The performance for best actress goes to Mervet Dizdash from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan.
Je suis tellement émue que mes mots me manquent et j'ai l'impression d'avoir oublié ma langue maternelle qui est le turc.
Le prix du scénario.
The award for the best screenplay
le
goes
prix
to
du
Sakamoto
scénario
Yuji
revient à Sakamoto Yuji pour Monster.
Je vous remercie infiniment. Je vais m'empresser de faire part de cette nouvelle à Monsieur Yuji Sakamoto, qui malheureusement a dû repartir au Japon un peu plus tôt.
Le prix de la mise en scène.
Tran Angung, des pots de fée.
Je voudrais aussi remercier Juliette Binoche. C'est vraiment la femme d'une seule parole.
Le prix du jury.
Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki.
Et nous avons un message de Aki Kaurismäki.
Merci et twist and shout.
Kun erta marjat pihlajain, kuin verta niillä ois. On kurkiaurat lentäneet jo ylipääni pois.
Le Grand Prix est attribué As a Zone of Interest by Jonathan Glazer.
Je voudrais rendre hommage à la mémoire de Martin Hennes et le remercier. C'est son roman qui a été à la base de notre film et je suis très heureux de l'avoir réalisé.
We carried it with us all the way here. But the important thing is, what are you going to do about it?
Pour remettre la Palme d'Or, mesdames et messieurs,
Jane Fonda.
Good evening. It's exciting to be back. C'est passionnant d'être de retour au Festival de Cannes, où je suis venue pour la première fois en 1963. Un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas nés. C'était différent, c'était plus petit, c'était dans un autre palais. Et plus important, aucune femme était en compétition à l'époque. Et on n'avait rien remarqué, on ne s'est pas dit, il y a quelque chose d'anormal. On a beaucoup progressé depuis lors.
The Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet.
Please come on, Sandra. Vous pouvez venir, les acteurs, les producteurs, merci.
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
D'accord, mais ça s'entendait que c'était pas une dispute.
Non, non, non. Daniel, on est d'accord, il y avait la musique très forte, toi t'étais en dehors, tes parents dans la chambre de ta mère, donc deux niveaux au-dessus. Comment tu peux être sûr du ton des voix? Et, enfin, moi je me demande même d'ailleurs si t'as pu entendre les voix.
J'étais juste en dessous de la fenêtre ouverte, en fait, donc j'ai entendu... Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs, et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place. Cette place que j'ai prise il y a 15 ans, dans un monde un peu moins hostile, et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer.
Ça y est, Cannes s'est achevé et c'est loin de me déplaire hein, sur une palme d'or décernée à Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Alors j'apprécie car c'est les films que j'ai préférés parmi la quinzaine de longs métrages de la compétition que j'ai pu voir. Et puis ça a du sens car le président du jury, Ruben Östlund, est un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Mais lui qui est si habile dans sa mise en scène, on a diffusé encore il y a peu un extrait de Sans filtre, hein, la palme d'or 2022, a laissé Tran Anh Hung repartir de Cannes avec le prix de la mise en scène pour son film La Passion de Dodin Bouffant, qui confronte ou mêle hein, plutôt Benoît Magimel en cuisinier inspiré aux côtés d'une Juliette Binoche en cuisinière inspirante. Alors les mouvements de caméra sont si présents, la surabondance de nourriture est si écrasante à l'image que ce film est à réserver aux seuls amoureux de la chair. Ayant vu le film en projection, alors avec des journalistes exclusivement, la salle a tremblé à plusieurs reprises à force d'excès, d'effets de montage et de mouvements de cadre, et la presse a été majoritairement assassine envers le film du réalisateur de L'odeur de la papaye verte. Mais en remportant ce prix, cela fait deux films français récompensés pour cette édition cannoise 2023. Alors concernant la Palme d'Or, c'est la 11e décernée un film français. On n'a pas dû attendre longtemps hein, d'ailleurs après celle de Titane en 2021 et chose amusante ou pas, hein, d'ailleurs Julia Ducournau était dans le jury 2023. Alors y avait-il de la place pour une autre femme? Il semblerait que non. Cela dit, je ne peux pas en juger vraiment car j'ai vu peu de films réalisés par des femmes, si ce n'est le très intrigant mais trop rigide peut-être Club Zéro de Jessica Hausner. Le Grand Prix, donc la sous-palme d'or, a été donné à The Zone of Interest, réalisé par Jonathan Glazer. Ce n'est pas une surprise car tout le monde le donnait gagnant. Le film qui nous emmène dans une maison avec jardin à côté du camp d'Auschwitz a conquis tous les festivaliers, hein, qu'ils soient journalistes, critiques de cinéma ou non. Et beaucoup espéraient un meilleur prix aussi hein, pour Aki Kaurismäki, qui ne démérite pas avec Les Feuilles Mortes, un film dans la veine bien connue du réalisateur finlandais, qui fait se rencontrer sur fond de crise de l'emploi deux êtres solitaires. Ça boit, ça chante, ça se déçoit et ça semble s'aimer, c'est un bel élan de cinéma, doux, amusant et triste à la fois. Kore-eda, qui remporte le prix du scénario, est maintenant un habitué des prix à Cannes. Il était aussi pressenti, hein, d'ailleurs, pour la PAM, c'est ce qu'on entendait. Comme là aussi était Wim Wenders, qui a longuement été applaudi après son film Perfect Days. Alors j'étais dans la salle et j'ai senti que son acteur pourrait empocher le prix d'interprétation, parce qu'il s'agit d'un film compliqué. On y voit un homme dont la fonction est de chaque jour inlassablement nettoyer les toilettes publiques d'un quartier de Tokyo. La moitié du film, on n'entendra pas la voix de l'acteur qui apparaît à mesure qu'il rencontre du monde. Alors du monde, c'est beaucoup dire d'ailleurs. Hein. Alors au-delà de sa tâche quotidienne, l'homme s'évade en regardant la beauté des petites choses, écoutant des vieilles cassettes, prenant des photos de la lumière qui passe à travers les cimes des arbres. C'est poétique, c'est doux, c'est lent et c'est bien fait. Il y avait plutôt donc de bons films à défaut de grands films. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Palme d'Or est amplement méritée. Il ne reste plus qu'à découvrir ou redécouvrir eh bien, la vingtaine des films en compétition dans les salles. C'est une manière de rester à Cannes, puisque nous allons maintenant parler de L'amour et les forêts. Le film y était présenté hors compétition. On y retrouve Virginie Efira, une actrice qui tourne beaucoup avec des réalisatrices, nous rappelle Marine.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
J'étais folle de lui.
Eh bien oui, je parle fort, parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi.
Quand Blanche Renard rencontre Grégoire l'amoureux, l'amoureux c'est son nom, tout commence comme un conte de fées. Elle décide d'emménager avec lui le plus naturellement du monde et petit à petit, le conte de fées s'obscurcit. Greg la surveille d'abord de loin, puis de plus en plus près. Greg contrôle ses dépenses et se montre maladivement jaloux. Et surtout, Greg sait parfaitement souffler le chaud et le froid, alternant crises de colère et moments d'amour suspendus, tandis que Blanche, elle, se voit de plus en plus être coupée du reste du monde. Cette histoire d'amour et surtout de possession ordinaire et cruelle est racontée ici sous la forme d'un long flashback.
Oh, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi ?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Tu te plains de ton mari ?
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi ? Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez ?
J'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure ?
17h, pourquoi ?
Il t'appelle tout le temps ton mari, hein ?
Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou.
Bah, je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux.
Virginie Efira incarne Blanche, Blanche et sa sœur jumelle, et l'actrice continue décidément de se créer une magnifique filmographie composée en grande partie de réalisatrices. En dehors de Justine Triet, qui l'a littéralement révélée non pas au grand public, mais au cinéma d'auteur et aux éloges de la critique, elle a également collaboré avec Marion Vernoux, Léa Fazer, Anne Fontaine, Emmanuel Cour, Catherine Corsini, Alice Vinocourt, Rebecca Zlotowski, Delphine Deloger, et donc avec L'amour et les forêts. Elle a à présent rencontré l'univers de Valérie Donzelli. Lorsque Valérie Donzelli est arrivée dans le cinéma français, c'était en 2011, avec La guerre est déclarée, puis elle a affirmé un style trempé dans l'encre de la nouvelle vague, avec Main dans la main, largement entrecoupée de passages chantés et dansés, et avec Notre-Dame, dans lequel elle joue également, et qui revendiquait une mise en scène des plus fantaisistes. La veine plus sombre de son cinéma, qu'elle creuse ici avec L'amour et les forêts, avait déjà été entamée avec Marguerite et Julien, son premier échec critique et commercial par ailleurs, l'histoire d'une romance incestueuse entre un frère et sa sœur qui avait été écrite à la base pour François Truffaut. Avec L'amour et les forêts, Valérie Donzelli conjugue son amour de la nouvelle vague avec un cinéma empreint de modernité et cela lui réussit très bien en donnant une couleur bien plus sombre à sa mise en scène. Valérie Donzelli adapte ici un livre de Éric Reinhardt avec la complicité de Audrey Diwan en changeant plusieurs éléments de ce best-seller, en renommant notamment son personnage féminin principal Blanche, alors que le personnage initial s'appelait dans le livre Bénédicte Ombre d'Âne. Le ton est donné, il n'y aura aucune complaisance à l'égard du personnage du mari manipulateur. Le personnage féminin sera, comme son nom l'indique, une victime pure et innocente. Une victime qui, grâce au jeu toujours impeccable de Virginie Efira, a toute notre empathie, un personnage à qui elle donne la justesse nécessaire pour que l'on s'identifie à sa souffrance et la dimension tragique requise pour que l'on croie à sa descente aux enfers.
Je te veux que pour moi.
Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible.
Et vous suivez ?
T'étais où ?
Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions.
T'étais où ?
Oh Blanche, je t'aime tellement.
Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
D'une façon générale, la cinéaste s'est entourée sur ce projet d'artiste avec qui elle n'avait jamais travaillé. Elle qui a fait par le passé 3 films avec son ex Jérémy El-Kaïm a cette fois constitué une équipe entièrement nouvelle, ayant beaucoup aimé la sublime musique du film 37-2 de Jean-Jacques Benex, un film dans lequel une romance passionnée dérivait également vers l'horreur. Donzelli a demandé à Gabriel Yared de composer la bande-son de cette histoire d'amour et de possessivité. aux côtés de Virginie Efira, Melville Poupeau, impeccable dans un rôle complexe et double, aussi inquiétant que charmant, du moins dans les premiers temps de la séduction. On pense bien sûr à Vincent Cassel dans Mon Roi, bien que le fond du propos soit différent, hein, car la lecture des relations toxiques par Maïwenn et Valérie Donzelli n'est pas la même. On rappelle quand même que Maïwenn disait dépeindre dans Mon Roi un amour passionnel, sans voir du tout la nocivité de ce qu'elle décrivait dans son propre film. Valérie Donzelli livre, elle, un film puissant, moins brutal que Jusqu'à la garde, qui empruntait au film d'horreur pour parler de violence conjugale, mais qui parvient à opérer un glissement véritablement cauchemardesque en nous astreignant à rester au plus près de ses personnages pour être enfermé avec eux. En dehors de ses grandes qualités cinématographiques qui prouvent que Valérie Donzelli sait évoluer et grandir artistiquement parlant, L'amour et les forêts est également un film utile, un film fort qui montre bien le piège et l'enfer des relations toxiques.
L'amour et les forêts est en salle depuis le 24 mai. Omar La Fraise, est-il un film aux fraises? Tu vas essayer de répondre à cette question, Manu.
Ou un film qui a la pêche.
On va voir. Pète.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Omar Zalouri. Plus qu'on est sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut.
T'as une bonne nouvelle?
La patrie de ton père, Jazeera, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazeera, voilà, ça m'émeut.
Ah, je vais pouvoir crever ici.
La présenter comme une comédie noire explorant les racines des personnages à travers un territoire, Omar Lafraise est surtout un film déprimant dans le mauvais sens du terme. Pourtant, Elias Belkedar, co-scénariste de Athéna, tout s'explique, parvient à capter la topographie authentique de la ville d'Alger. Si la caméra s'était contentée de filmer les quartiers de la cité, les ruelles un peu glauques et une figuration locale très incarnée, on aurait pu tenir un bon documentaire géopolitique d'une trentaine de minutes. Mais pas plus, parce que sinon le film, pourtant aussi coécrit par Thomas Bigdin, scénariste de Jacques Audiard, n'est ni drôle ni émouvant, juste exaspérant. L'histoire en soi n'est pas plus bête qu'une autre, portrait de deux gangsters à l'ancienne un peu ringards qui fantasment sur une vie luxueuse à laquelle ils ne cessent de courir après. D'ailleurs, l'une des seules bonnes idées du film, liée au décor, est de montrer nos deux lascars logeant dans des grandes villas luxueuses complètement vides. Donc tout à l'extérieur et rien à l'intérieur pourrait être un peu le credo symbolique du quotidien de Roger et de Omar en quête d'un rêve toc. Alors pour revenir au sujet, Omar, connu sous le nom d'Omar La Fraise, est contraint de quitter la France, recherché par les autorités pour une peine de 20 ans de prison ferme. Il s'est réfugié à Alger avec son acolyte de toujours, donc Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie. Omar accepte, contraint de devenir le directeur adjoint d'une usine de gâteaux, mais le passé finit par les rattraper.
C'est Omar. Il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau?
Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges l'oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Allah, vous êtes deux légendes.
Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser?
Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire.
Le style, ça me rappelle quelqu'un.
Omar La Fraise déçoit sur tous les tableaux à force de ratisser large, de décupler en fait les ruptures de ton et registres sans justification dramatique. Et Elias Belkedar n'a pas le talent nécessaire pour passer de la légèreté au sordide. Son film est juste vulgaire et niais, entre polar branché à connotation sociale et puis une rom-com aussi crédible que dans un épisode d'Un, deux, trois soleils. Le film étale complaisamment une violence aussi gratuite que désagréable dans une esthétique d'un cinéma français qui est déjà daté en fait, qui fantasme sur celui de Quentin Tarantino. Le réalisateur cumule les fautes de goût à l'image de cette séquence putassière où Omar recrute des mômes de quartier pour tabasser des gangsters locaux. Alors ça se voudrait subversif, c'est juste bête. Le manque d'empathie que nous éprouvons envers Roger et Omar entérine définitivement le film et prouve surtout la médiocrité de l'écriture. Alors car les comédiens là ne sont pas responsables du fiasco. Le talentueux Reda Kateb a du mal à défendre un personnage aussi caricatural que Omar, délinquant en quête de rédemption grâce à l'amour. Quant à Benoît Magimel, c'est une autre histoire. Objectivement, il est incroyable. Mais il a l'air d'être sur une autre planète, absent du film, alors toujours coincé dans une boucle temporelle à l'intérieur du film de Albert Serra, Pacifiction, pour le rappeler. D'ailleurs, il a même gardé les costumes trop serrés du film qui lui donnaient une allure un peu grotesque. La mise en scène est à l'image d'une narration incohérente et brouillonne. Elle part un peu dans tous les sens, évoluant alors d'un style à un autre, sans aucun souci de rigueur. Les séquences filmées caméra à l'épaule alternent avec des plans ultra stylisés, montés comme un clip, alors au gré d'une inspiration aléatoire. Alors cette forme un peu en roue libre synthétise à elle seule, je dirais, l'échec du film, non seulement raté, mais antipathique. Rattrapé seulement, comme je le disais au début, par cette vision un peu naturaliste et un peu sincère de la ville d'Alger. Voilà. Bref, un film aux fraises, donc, et qui n'a pas tant la pêche que ça.
Bon, tu as répondu aux deux questions. Omar La Fraise est en salle depuis le 24 mai. Énième film sur Dracula, mais cette fois-ci, on se concentre sur Renfield, son fidèle assistant. Eh bien, c'est le film homonyme de Chris McKay.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Désolé de vous déranger.
Vous avez besoin qu'on vous aide ?
Il faut que je me sorte d'une relation toxique horrible.
Si tu commençais par nous expliquer ce qui t'amène. Mon patron est... particulier.
T'arrives pas à te le sortir de la tête.
Alors, on parle de Cannes, en ouverture, mais si vous cherchez un endroit où l'immortalité existe aussi bel et bien, c'est à Hollywood. Alors, ça tombe bien, car aujourd'hui, on va justement parler de vampires qui se retournent dans les cercueils et du poids du temps qui passe. Le tout avec des figures ultra connues de la culture populaire et tellement utilisées qu'on se demande comment il est encore possible que des producteurs se disent que l'argument est toujours valable commercialement parlant. Alors, attention, je dis ça, mais c'est un amateur au dernier degré de ce qu'on appelle les monstres de l'Universal qui va vous parler de Renfield, la dernière production du studio donc qui met en scène Dracula et son fidèle assistant et qui est bien sûr bien conscient de l'éternel pouvoir d'évocation des mythes dont celui cristallisé par le récit épistolaire de Bram Stoker voilà deux siècles. Alors il faut quand même prévenir que le sérieux de Bram Stoker ne sera donc pas vraiment présent dans le film de Chris McKay et que les mythes sont ici bien mis à mal. Mais ce n'est pas plus mal, alors tout du moins pendant une partie du long métrage.
Non, ton assistance est requise.
J'arrive maître.
T'as l'impression qu'il pourrait te détruire simplement en claquant des doigts.
Sans même les claquer.
Ok.
Ah oui, ça on connaît bien.
Renfield met donc en scène l'homme que Dracula va mettre à sa botte et lui permettre de l'aider dans son plan de s'installer dans un autre pays que celui dont il est originaire. Alors pour la première fois, il a droit au rôle titre, lui qui était relégué de manière permanente au rang de personnage de troisième zone dans les précédentes itérations de l'histoire. Puisant sa force dans la consommation d'insectes en tout genre, Renfield n'a plus de personnalité puisqu'il s'agit, il agit tel un automate selon les bons vouloirs de son maître. Les concepteurs du film se sont amusés à imaginer ce que deviendrait un tel personnage s'il se rendait compte de sa servitude, et pire, s'il était conscient à quel point elle s'avérait être destructrice. L'idée de le faire rencontrer de nos jours en groupe de personnes qui se réunissent pour parler des comportements toxiques de leur employeur était franchement amusante et constitue d'ailleurs la scène inaugurale du film qui permet de bien faire comprendre qu'ici nous sommes dans une comédie et non pas dans un film gothique traditionnel. Alors on est donc moins tributaire du Dracula de Todd Browning, celui de 1931, même s'il y a une récupération astucieuse des images, que des déclinaisons humoristiques de la saga comme les deux Nigo contre Frankenstein, contre la momie, où tous les films mettent en scène le duo comique Abbott et Costello face au bestiaire classique de la Universal. Alors à cela près qu'il y a une bonne dose de gore cartoonesque, élément bien sûr absent de ces comédies des années 40 et 50. Alors si cet éclairage permet de s'amuser avec les racines cinématographiques du mythe et apporte une fraîcheur bienvenue, surtout après l'échec de relancer les monstres sous la bannière Dark Universe, dont seule la momie avec Tom Cruise avait vu officiellement le jour et n'avait pas vraiment brillé au box-office malgré 2-3 choses intéressantes, il est quand même décevant de constater que le potentiel du film est tiré vers le bas par quelques choix malheureux et incohérences malvenues. Malgré le décalage savoureux, il est quand même bien difficile de croire à la prise de conscience d'un Renfield au bout d'un siècle de pérégrination et de constater qu'il faut à peine quelques mois pour que Dracula retrouve de sa superbe après des décennies à se régénérer très lentement. Il est dommage également de trop déporter l'intrigue, non pas uniquement sur Renfield, mais sur des personnages créés pour l'occasion, dont une famille de mafieux caricaturaux et une policière qui a un compte personnel à régler, jouée par l'irritante Awkwafina, une rappeuse actrice inconnue chez nous, mais égérie de récentes productions Disney aux États-Unis.
Renfield, apporte-moi des victimes innocentes. Je veux une tablée de bonnes sœurs, un quart de cheerleaders.
Et moi, je voudrais une vie normale. Mais le monde moderne est dangereux.
Vous êtes le mec qui livre la bouffe que commande le méchant.
Mais que se passera-t-il si tu arrêtes de penser à ses besoins ?
Il pourra pas retrouver sa pleine puissance.
Oui, c'est ça ! Il pourra pas retrouver sa pleine puissance ! Waouh, c'est trop bizarre comme façon de le dire ! Mais oui, c'est ça !
Certains m'appellent le prince des ténèbres, d'autres le seigneur de la mort, mais... pour beaucoup, je suis... Dracula.
Ok, manifestement, ce n'est pas qu'une simple question de narcissisme.
Alors, le mélange d'intrigues vampiriques et de mafieux sans foi ni loi fait penser au film assez bâtard de John Landis de 92, Innocent Blood, où Anne Pario jouait une vampire qui se nourrissait exclusivement du sang de criminels. Vu que Renfield a du mal à jeter de pauvres innocents dans la gueule du loup, il tente de trouver des gens peu recommandables comme casse-croûte pour le prince des ténèbres. Mais comme chez John Landis, l'un d'eux va profiter justement d'être mordu pour essayer de dominer la situation. Alors si on peut perdre un petit peu le fil avec ces intrigues et qu'on salue le choix de Nicolas Hoult dans Renfield, ben, il n'empêche que le clou du spectacle était bien évidemment un Nicolas Cage incroyable en Dracula, se réappropriant parfaitement la gestuelle baroque de Bela Lugosi et s'investissant à fond dans ce rôle complètement fou. Alors lui et le travail fait sur la photographie, inspiré des couvertures du magazine Famous Monster of Finland dessiné par Basil Yorgos et ayant fait rêver des milliers d'adolescents sur plusieurs décennies, ben, suffisent à accorder 1h30 de votre temps pour une comédie horrifique qui aurait certes pu être bien meilleure mais qui est bien moins pire que la plupart des films d'horreur dits sérieux à l'affiche en ce moment.
Et donc Renfield, énième effectivement film sur Dracula, est en salle depuis le 31 mai. Alors, Omar Lafraise n'était pas de ton goût, Manu, tout à l'heure. C'est pour ça que tu as voulu parler d'un film qui a davantage ton intérêt. C'est celui de Ulrich Seidel, le réalisateur autrichien, qui nous emmène en Roumanie avec Sparta.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Le nouveau film du cinéaste comique autrichien Ulrich Seidel, qui a traumatisé quelques cinéphiles avec Dog Days ou Import-Export, de joyeuses tranches de vie qui feraient passer le cinéma de Michael Haneke pour du Walt Disney, nous parvient avec un handicap majeur et impossible à passer sous silence. En effet, Ulrich Seidel est accusé d'avoir maltraité psychologiquement et physiquement des enfants sur le tournage de Sparta et surtout d'avoir dissimulé la teneur du sujet aux parents qui ont dû tomber des nus en découvrant la vérité. Alors l'intéressé réfute les faits, là il y a une interview qui vient de tomber dans Le Monde, et apparemment l'affaire serait retombée en fait, c'est-à-dire que c'est pas si clair que ça, et on peut peut-être aller voir le film plus tranquillement. Bref, alors non, Sparta n'est pas la suite de 300, même si à un moment, les jeunes comédiens amateurs simulent des combats de gladiateurs lors d'une séquence de mauvais goût aussi provocatrice que drôle vu la symbolique affichée. L'histoire est autrement plus déprimante, voire sordide. Alors, Ewald, autrichien installé en Roumanie depuis quelques années, la quarantaine passée, souffre d'un mal-être existentiel. Il tente un nouveau départ, il quitte sa petite amie et part vivre dans l'arrière-pays où il ouvre un centre de judo gratuit pour jeunes garçons. Alors déjà, le réalisateur nous met un peu la puce à l'oreille. Si les enfants ont l'air heureux avec leur nouveau mentor, les villageois se révèlent rapidement méfiants. Ewald est tiraillé entre son attirance envers les enfants et une conscience qui l'interdit de franchir un cap. Comme l'a indiqué le réalisateur dans une interview, dans mon travail, j'ai toujours essayé de comprendre les contradictions de nos actions et de nos pensées qui constituent l'essence de l'être humain. Alors contre toute attente, Sparta, second volet du diptyque commencé par Rimini, qui était sorti l'an dernier, est le portrait lucide et dérangeant d'un pédophile en puissance qui souffre de sa déviance. Consciemment ou non, lié à l'héritage de son père, nostalgique du nazisme, il entreprend également un programme de rééducation des enfants, ce qui est la part la plus trouble du film. Les parents des jeunes garçons, alcooliques et violents, ne sont pas très bien traités par le cinéaste, accusés d'ailleurs de racisme par la presse, ce qui me semble quand même assez erroné. Il faut quand même regarder le film qui est plus complexe. Le film cultive une certaine misanthropie en revanche, fidèle, je dirais, au cinéma autrichien. Alors certes, la démonstration manque parfois de subtilité, répétant ad nauseum les mêmes situations ambivalentes, mais il s'agit d'un film âpre et pas aimable qui explore des zones taboues, guère fréquentables, mais remarquablement mises en scène, alliance réussie d'un style documentaire, né de l'observation du quotidien et d'une rigueur visuelle absolue, privilégiant donc les longs plan fixe parfaitement cadré dans des décors assez flippants.
Sparta de Ulrich Seidel est en salle depuis le 31 mai.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer.
du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Guillaume, tu auras deux films.
Oui, un film, je veux dire, traditionnel, Camilla sortira ce soir, et un film d'animation, Lille.
Et quant à toi, Manu, un film.
Un film, ce sera Règle 34, sur le monde un peu du porno et de la politique, au Brésil.
Allez, à la semaine prochaine.